Depuis l'année dernière, me semble-t-il, tu collabores avec Étienne Saliège, qui est sur la transformation de Sainte-Foy-la-Grande. Tu en as parlé un petit peu là tout à l'heure, c'est ça? Tu as
Oui.
parlé de Saint-Émilion, mais tu n'as pas parlé de Sainte-Foy-la-Grande.
Alors, Sainte-Foy-la-Grande, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'est ouvert à moi il y a un peu plus d'un an, effectivement. Donc, j'interviens dans l'équipe d'Étienne Saliège, effectivement, qui est architecte urbaniste et qui est chargé de la révision du règlement d'urbanisme. Alors, c'est des sigles un peu barbares là qu'on voit passer et qui prennent souvent la tête à toute personne qui a un projet sur sa maison dans des lieux comme ça. Donc, en l'occurrence, là, la vieille ZPPUP va évoluer en PVAP, plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Désolé pour le désordre. Mais dans le cadre de cette réglementation, comme on est sur un centre ancien, Sainte-Foy-la-Grande, c'est une très belle bastide, beaucoup d'architecture à pans de bois, un peu d'architecture en pierre aussi, d'architecture ancienne. Et comme j'ai cette pratique depuis pas mal d'années des villes médiévales de la région, cette expertise en matière d'archéologie du bâti, Étienne m'a proposé d'intégrer l'équipe et c'est son équipe qui a été retenue. Donc depuis un an, moi j'interviens sur le volet compréhension de l'architecture ancienne. Donc il y a eu déjà tout un travail de documentaire, de synthèse de tout ce qui a déjà été mené au niveau universitaire, en travail d'érudit, regrouper toutes ces données-là, regrouper toute la documentation, les plans anciens, les dessins, les photos anciennes qui vont former tout un fonds documentaire sur l'histoire de la ville. Donc ça, c'est un premier volet que j'ai réalisé l'année dernière. Et là, actuellement, je travaille sur les façades. Là, c'est un règlement d'urbanisme qui touche qu'aux façades, pas aux intérieurs des bâtiments, pas pour le moment. Et donc je réalise des petites notices archéologiques, c'est pas des études de fond, c'est une présentation succincte, mais avec le regard de l'archéologue, des principales façades anciennes de la ville. Et moi j'indique ce qui me permet de déterminer dans les grandes lignes que là on a les vestiges d'un bâtiment du XIIIe siècle et puis qu'il a été repris au XVIe siècle et qu'on a tel réaménagement, mais qu'au XIXe siècle des photos anciennes ou des dessins permettent de dire qu'il y avait tel élément qui avait disparu, ou que derrière l'enduit aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'on retrouve tel détail ou tel autre. Donc ici, le jour où il y aura un projet de réhabilitation, il faudra être prudent pour prendre en compte cette mémoire, ce qui reste de ce bâtiment. Il ne s'agit absolument pas dans ces règlements de transformer ces lieux en musée. C'est juste redonner la vie et surtout voir comment intégrer ces problématiques architecturales, patrimoniales, dans une ville qui doit se renouveler et qui doit continuer à vivre. On n'est pas là pour, comme je disais, tout transformer en musée ou vivre comme au Moyen-Âge, c'est absolument pas ça. Mais comment intégrer dans un projet de ville aujourd'hui, dans un projet de vie, ce patrimoine qui est ce que nous ont légué les générations passées. C'est à la fois un tout en matière touristique, mais c'est une richesse culturelle, c'est ce qui fait le lien entre les habitants et c'est important de le préserver. Mais pour ça, il faut le comprendre, il faut l'expliquer et moi, c'est vraiment mon rôle, c'est comprendre et expliquer et donner du sens.
Et en même temps, donc, permettre aux propriétaires de ces bâtiments de ne pas faire n'importe quoi en matière de construction, d'utiliser peut-être non pas les matériaux d'antan, mais essayer de s'en rapprocher.
Oui, tout à fait. C'est, il y a à la fois un guide des bonnes pratiques. Et dans ces nouveaux règlements qui se mettent en place aujourd'hui, il y a un volet pédagogique, il y a un volet d'accompagnement. C'est beaucoup moins brutal que les anciens règlements qui étaient pas toujours faciles à comprendre, qui n'étaient pas toujours très clairs, voire même pour certains qui pouvaient être erronés, c'est vraiment appréciable aujourd'hui de voir que dans cette nouvelle pratique des règlements d'urbanisme, l'historien et l'archéologue sont intégrés au même titre que l'architecte, que le diagnostic structure, que les hommes de l'art des différents corps de métier. On est reconnu pour notre savoir-faire à part entière et du coup, le règlement, je pense, va y gagner en lisibilité.
Et les propriétaires donc de ces bâtiments ne rechignent pas justement lorsqu'ils entendent, ils entendent tes propos en disant qu'il vaut mieux utiliser ce produit, cette façon de faire, parce que c'était comme ça et non pas ce que vous pensez, vous vouloir mettre en évidence alors que c'est contradictoire.
Alors au
ça
début, ils peuvent rechigner un peu, surtout que sur d'autres dossiers, ça m'est arrivé d'intervenir, je pense à l'Aréole à plusieurs reprises, quand il y a eu des projets de réhabilitation de façade ou de maison, et un propriétaire dépose un dossier, et le dossier est refusé parce que le projet ne correspond pas du tout à l'essence même du bâtiment. Donc forcément, quand on vient de se faire refuser un dossier, les gens ne sont pas forcément très très coopérants au départ, mais cela dit, moi je ne représente pas les services de l'État directement, je les accompagne au même titre que j'accompagne les propriétaires, et très rapidement le contact s'arrange avec les propriétaires, et puis rien qu'avec une première visite, je vais leur expliquer déjà visuellement, moi c'est mon métier, j'ai l'habitude, tel détail, tel élément, tel truc, et je vois dans leur regard que ça change, et il y a de la curiosité, il y a des questions,
et la dynamique s'installe.
Et très souvent ces études là vont débloquer des situations. Donc oui, c'est il y a plus de contraintes, mais en même temps, avoir une maison dans un centre ancien, c'est pas avoir un pavillon en banlieue, c'est pas la même chose. Il y a des contraintes, mais on a un patrimoine, c'est certes une maison privée, mais ça fait partie d'un patrimoine collectif à prendre en compte et à transmettre.
Mais les propriétaires en deviennent fiers après.
À la fin, j'espère oui. Effectivement.
Bah oui, parce que moi j'ai fait quelque chose.
Faut-il avoir un beau projet aussi, les marchands de sommeil, heureusement, il y en a de moins en moins. Quoique, ça dépend des lieux. Il y en a toujours, mais dans les centres anciens, entre une personne qui va réhabiliter un bâtiment pour en faire quelque chose avec une recherche d'esthétique, de confort, que ce soit pour lui ou pour louer, aura pas du tout le même rendu que la personne qui va acheter la vieille ruine parce que ça coûte pas cher. Et puis qui va mettre du placo, du PVC pour en faire du logement qui ne sera pas qualitatif et personne ne s'y retrouvera dans ces cas-là.
Justement, j'ai parlé de cela hier avec une conservatrice.